Leçon 11, semaine du 4 au 10 juin. Joseph, maître des rêves. Samedi après-midi. Texte à mémoriser. Ils se dirent l'un à l'autre, voilà le maître rêveur qui arrive. Genèse 37 au verset 19. L'histoire de Joseph, Genèse 37 à 50, couvre la dernière partie du livre de la Genèse, depuis ses rêves en Canaan, Genèse 37, 1 à 11, jusqu'à sa mort en Égypte, Genèse 50 au verset 26. En fait, Joseph occupe plus de place dans le livre de la Genèse qu'aucun autre patriarche. Bien que Joseph ne soit que l'un des fils de Jacob, il est présenté dans Genèse comme un grand patriarche au même titre qu'Abraham, Isaac et Jacob. Nous verrons également que la vie de Joseph met en évidence deux vérités théologiques importantes. D'abord, Dieu accomplit ses promesses, ensuite Dieu peut changer le mal en bien. Dans l'étude de cette semaine, nous nous concentrerons sur la jeunesse de Joseph. Il est le préféré de Jacob et on l'a surnommé ironiquement Baal Hakolomot, le rêveur, Genèse 37 au verset 19. Ce qui signifie littéralement « maître des rêves » et qui sous-entend qu'il est un expert en matière de rêves. Ce titre lui va très bien car non seulement il reçoit, comprend et interprète les rêves prophétiques, mais il les concrétise également dans sa vie. Dans ces chapitres, nous verrons à nouveau que la providence de Dieu s'affirme même malgré le mal et la méchanceté du cœur humain. Dimanche 5 juin. Difficulté familiale. Joseph s'est enfin installé dans le pays. Tandis qu'Isaac n'était qu'un immigré, le texte dit également que Jacob habita en Canaan, Genèse 37 au verset 1. Pourtant, c'est à ce moment-là alors qu'il s'installa dans le pays que les difficultés commencèrent. Cette fois pourtant, c'est du sein de sa famille qu'elles viennent. La controverse ne concerne pas la possession du pays ou l'utilisation d'un puits, non. Elle est principalement spirituelle. Lisez Genèse 37 au verset 1 à 11. Quelle dynamique familiale prédisposait les frères de Joseph à le détester autant. Dès le départ, nous comprenons que Joseph, le fils que Jacob avait eu dans sa vieillesse, Genèse 37 au verset 3, jouissait d'une relation à part avec son père qu'il aimait plus que ses frères. Genèse 37 au verset 4. Il alla même jusqu'à faire à Joseph une tunique multicolore, un vêtement de prince. De Samuel 13 au verset 18, indication de l'indication secrète de Jacob d'élever Joseph, le premier fils de Rachel, au statut de premier-né. L'avenir confirmera bien les souhaits de Jacob, car Joseph recevra les droits du premier-né. 1 Chronique 5 au verset 2. Il n'est donc pas surprenant que les frères de Joseph le détestassent autant et ne pouvaient même pas avoir de conversation tranquille avec lui. Genèse 37 au verset 4. De plus, Joseph faisait des rapports à son père concernant tout comportement répréhensible de ses frères. Personne n'aime les rapporteurs. Alors, quand Joseph partagea ses rêves en sous-entendant que Dieu le placerait dans une position plus élevée et que ses frères se prosterneraient devant lui, ils le détestèrent encore plus. L'authenticité du caractère prophétique des rêves est même confirmée par le fait qu'ils se répètent. Voir Genèse 41 verset 32. Bien que Jacob ait publiquement réprimandé son fils, Genèse 37 verset 10, il n'a pas oublié cet incident, il a médité sur sa signification et a attendu sa réalisation. Genèse 37 au verset 11. Peut-être qu'au fond, il pensait que ses rêves voulaient dire quelque chose après tout. Et il avait raison, même s'il ignorait alors à quel point. Lisez Matthieu 20 verset 26 et 27. Quel principe crucial est révélé ici et comment apprendre à manifester dans nos propres vies ce qu'il enseigne. Lundi 6 juin, Joseph est attaqué. Aussi horribles que furent les événements qui devaient suivre, ils ne sont pas difficiles à comprendre. Être aussi proche, avoir même des liens familiaux avec quelqu'un que vous détestez, ne peut évitablement conduire, tôt ou tard, qu'à des difficultés, et c'est ce qui arriva. Lisez Genèse 37, versets 12 à 36. Que nous enseigne ce passage sur combien de cœurs non régénérés peuvent être dangereux et mauvais et ce qu'ils peuvent nous entraîner à faire, qui que nous soyons. Les frères détestaient Joseph parce qu'ils étaient jaloux de la faveur de Dieu. Actes 7 au verset 9, une faveur qui sera confirmée à chaque étape du cours des événements qui suivent. Quand Joseph est égaré, un homme le trouve et le guide. Genèse 37 au verset 15. Quand les frères de Joseph complotent pour le tuer, Ruben intervient et propose de le jeter dans une citerne. Genèse 37 au verset 20 à 22. Il est difficile d'imaginer le genre de haine exprimé ici, surtout pour quelqu'un de sa propre famille. Comment ces jeunes hommes ont-ils pu faire quelque chose d'aussi cruel? N'ont-ils pas pensé même quelques instants à l'impact que cela aurait sur leur père? Quel qu'était le ressentiment qu'ils aient pu avoir envers leur père, parce qu'ils préféraient Joseph, faire cela à un de ses enfants était véritablement ignoble. C'est une puissante manifestation de la méchanceté qui peut habiter les êtres humains. Cet acte criminel ne leur donna cependant pas la satisfaction qu'ils espéraient. Quelques-uns, même parmi ses frères, se sentaient mal à l'aise quand ils virent s'approcher un convoi de voyageurs. C'était une caravane d'Ismaélites venait de l'autre côté de Jourdain qui transportait en Égypte des épices et d'autres denrées. Alors Judas proposa de vendre Joseph à ses négociants païens plutôt que de le faire mourir, et il fit observer que cette façon de s'en débarrasser la laisserait nette de son sang. Ellen White, Patriarche et prophète, page 188. Après l'avoir jeté dans la citerne, pensant le tuer plus tard, une caravane passe et Judas propose à ses frères de vendre Joseph. Genèse 37, versets 26 et 27. Après que Joseph est vendu aux Madianites, Genèse 37, verset 28, ces derniers le vendent à quelqu'un en Égypte, Genèse 37 au verset 26, devançant ainsi sa gloire future. Pourquoi est-il si important de rechercher la puissance de Dieu pour changer les mauvais traits de caractère avant qu'ils ne se manifestent dans des actes qu'à aucun moment vous n'auriez imaginé commettre? Mardi 7 juin. Judas et Tamar. L'histoire de Tamar n'est pas incongrue ici. Chronologiquement, cet épisode vient juste après la vente de Joseph en Égypte, Genèse 38 au verset 1, et il est cohérent avec le fait que Judas venait de laisser ses frères, ce qui renvoie à un désaccord avec eux. De plus, le texte partage un certain nombre de mots et de thèmes communs avec le chapitre précédent, et il porte la même leçon théologique, un acte malfaisant qui sera changé en événement positif lié au salut. Lisez Genèse 38. Comparez le comportement de Judas à celui de Tamar la Cananéenne. Lequel des deux est le plus juste et pourquoi? Judas trouve une épouse cananéenne, Genèse 38 au verset 2, avec laquelle il a trois fils, Er, Onan et Shéla. Judas donne la Cananéenne, Tamar, comme épouse à Er, son premier fils, afin d'assurer la généalogie qu'il faut. Quand Er et Onan sont tués par Dieu à cause de leur méchanceté, Judas promet à Tamar son dernier fils, Shéla. Après un certain temps, Judas semble avoir oublié sa promesse. Tamar décide de jouer les prostituées afin de l'obliger à la tenir, alors qu'il va trouver un peu de réconfort après la mort de sa femme. Comme Judas n'a pas d'argent sur lui pour payer la prostituée qu'il ne reconnaît pas, il promet d'envoyer plus tard un bouc de son troupeau. Tamar exige alors de lui qu'il lui donne, en attendant, son sceau, son cordon, son bâton en gage. Tamar tombera enceinte de cette seule relation. Plus tard, quand Judas l'accuse de s'être prostituée, elle montre à Judas son sceau, son cordon, son bâton. Judas comprend et présente ses excuses. La conclusion de cette histoire sordide est la naissance de Pérets qui signifie la brèche. Comme Jacob, il naquit le deuxième mais devint le premier et fut nommé dans l'histoire du salut comme l'ancêtre de David. Ruth 4 au verset 18 à 22. Et finalement, de Jésus-Christ, Matthieu 1 au verset 3, quant à Tamar, elle est la première des quatre femmes, suivie par Matthieu 1 verset 5, Ruth, Matthieu 1 verset 5 et 6, et l'épouse d'Uri, Matthieu 1 verset 6, qui ont généalogiquement précédé Marie, la mère de Jésus. Matthieu 1 verset 16. Il y a une leçon que l'on peut retenir de cette histoire, tout comme Dieu a sauvé Tamar par sa grâce, en transformant le mal en bien, il sauvera aussi son peuple par la croix de Jésus. Quant à Joseph, Dieu se servira de ses difficultés pour permettre le salut de Jacob et ses fils. Mercredi 8 juin. Joseph, esclave en Égypte. Nous reprenons à présent le cours de l'histoire de Joseph qui avait été interrompu par l'épisode avec Tamar. Joseph travaille désormais comme esclave pour le chef des gardes qui est responsable de la prison pour les hauts fonctionnaires royaux. Genèse 40, versets 3 et 4, Genèse 41, versets 10 à 12. Lisez Genèse 39. Au vu de l'exemple de Joseph qui travaillait comme gérant sous Potiphar, quels sont les facteurs qui conduisent à un tel succès ? Presque immédiatement, Joseph est décrit comme un homme de succès. Genèse 39, versets 2 et 3. Il était tellement doué et son maître lui faisait tellement confiance qu'il lui confia tout ce qui lui appartenait et fit même de lui l'intendant de sa maison. Genèse 39 au verset 4. La réussite de Joseph, cependant, ne le corrompt pas. Quand l'épouse de Potiphar le remarque et veut coucher avec lui, Joseph refuse catégoriquement et préfère perdre son travail et sa sécurité plutôt que de se faire un aussi grand mal et pécher ainsi contre Dieu. Genèse 39 au verset 9. La femme humiliée par le refus de Joseph l'accuse à tort de viol auprès de ses serviteurs et de son mari. Par conséquent, Joseph est jeté en prison. Joseph fait ici l'expérience de ce que nous avons tous vécu, le sentiment d'être abandonné par Dieu, alors que même pendant cette période difficile, le Seigneur fut avec Joseph. Genèse 39 au verset 21. Finalement, le Seigneur agit et il a un impact sur la relation entre Joseph et le chef de la prison. Là, comme dans la maison de son maître, le Seigneur bénit Joseph. C'est évidemment un homme doué et malgré les pires circonstances, après tout, il n'était encore qu'un esclave avant. Il cherche à s'en accommoder. Mais quels que soient ses dons, le texte dit clairement qu'à la fin, ce n'est qu'à Dieu qui doit son succès. Le chef de la prison ne regardait rien de ce dont Joseph s'occupait parce que le Seigneur était avec lui. Le Seigneur faisait réussir ses entreprises. Genèse 39 au verset 23. Comme il est important que tous ceux qui sont doués, que tous ceux qui ont du succès, se souviennent à qui ils le doivent. Lisez Genèse 39 au verset 7 à 12. Comment Joseph a-t-il résisté aux avances de la femme ? Pourquoi Joseph a-t-il dit précisément que céder à ses avances aurait été un péché contre Dieu ? De quelle compréhension fait-il preuve sur la nature du péché et sur ce que c'est ? Jeudi 9 juin. Les rêves du Pharaon. Lisez Genèse 40, versets 1 à 41, verset 36. Quel est le lien entre le rêve du Pharaon et les rêves du fonctionnaire ? Quelle est la signification de ce parallèle ? Le caractère providentiel des événements se poursuit. Avec le temps, Joseph devint responsable des prisonniers, dont deux se trouvent être d'anciens fonctionnaires du Pharaon, un échanson, valet, et un panetier, boulanger, Genèse 41, versets 9 à 11. Ils sont tous deux troublés par des rêves qu'ils ne comprennent pas, car il n'y a personne pour l'interpréter. Genèse 40 au verset 8. C'est alors que Joseph interprète leurs rêves respectifs. Après les deux rêves des fonctionnaires, le Pharaon fait également deux rêves que personne ne peut interpréter. Genèse 41 au verset 1 à 8. À ce moment-là, l'échanson se souvient providentiellement de Joseph et le recommande à Pharaon. Genèse 41 au verset 9 à 13. Après avoir fait ses rêves, le Pharaon, comme les fonctionnaires, est troublé. Et comme eux, il révèle ses rêves. Genèse 41, au verset 14 à 24, et Joseph les interprète. Comme les rêves de fonctionnaires, les rêves du pharaon montrent ces symboles parallèles. Les deux séries des sept vaches grasses et maigres, tout comme les deux séries d'épis pleins et racornis, représentent deux séries d'années, une bonne et une mauvaise. Les sept vaches coïncident avec les sept épis, réitérant le même message, preuve de leur origine divine, comme les rêves de Joseph. Genèse 41, verset 32, voire Genèse 37, verset 9. Bien que ce soit Joseph qui ait interprété le rêve pour le pharaon, Joseph s'assure que le pharaon sache que c'est Dieu, Elohim, qui a montré au roi les choses que Dieu allait faire. Genèse 41, versets 25 et 28. Il semble également que le pharaon ait saisi le message car, quand il décide de nommer quelqu'un pour superviser son pays, son argument est le suivant. Puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. C'est toi qui seras intendant de ma maison et tout mon peuple dépendra de tes ordres. Genèse 41, versets 39 à 40. Comme c'est fascinant, grâce à Dieu, Joseph passe d'intendant de la maison de Potiphar à responsable de la prison, puis à chef de toute l'Égypte. Quelle histoire puissante sous la manière dont les providences de Dieu se révèlent, même dans des circonstances qui semblent terribles. Comment apprendre à faire confiance à Dieu et à s'accrocher à ses promesses quand les événements semblent loin d'être providentiels et que Dieu semble silencieux. Vendredi 10 juin. Pour aller plus loin, lire Ellen White, Joseph en Égypte, pages 191 à 199, dans Patriarche et Prophète. Joseph et Daniel furent séparés de leur famille au moment où ils passaient de l'enfance à l'âge viril et ils furent emmenés tous deux en captivité dans des pays païens. Joseph fut tout particulièrement sujet aux tentations qui résultent du changement de fortune. Dans la maison du père, il avait été un enfant tendrement chéri. Dans la résidence de Potiphar, il fut esclave, puis confident et compagnon, enfin homme d'État. Instruit par l'étude, l'observation et le contact avec les hommes, condamné injustement, enfermé dans la prison de Pharaon, sans espoir d'être jamais relâché et vengé. Amené, lors de sa crise, à être le chef de la nation, comment parvint-il à conserver son intégrité? Pendant son enfance, Joseph avait appris à aimer et à craindre Dieu. Souvent, dans la tente de son père, ou sous le ciel constellé d'étoiles de la Syrie, on lui avait parlé de la vision de Bethel, de l'échelle dont le sommet touchait au ciel et des anges de Dieu qui montaient et descendaient par cette échelle et de celui qui, du haut de son trône, s'était révélé à Jacob. On lui avait aussi parlé de la lutte du patriarche près du torrent de Jabbok, alors que, renonçant au péché dans lequel il trouvait encore du plaisir, Jacob sortit vainqueur et reçut le titre de prince de Dieu. Tandis que, tout enfant, Joseph paissait les troupeaux de son père, l'existence pure et simple qu'il menait avait favorisé le développement de ses énergies physiques et mentales. En communion avec Dieu et par la nature et l'étude des grandes vérités qui avaient été transmises comme un dépôt sacré de père en fils, son esprit s'était affermi et ses convictions s'étaient confirmées. Dans la crise de sa vie, alors qu'il faisait le voyage de Canaan en Égypte, où il allait être réduit à l'esclavage, regardant pour la dernière fois les collines derrière lesquelles se trouvaient les tentes de son père, Joseph se souvient de Dieu et de Jacob. Et il se rappela les leçons de son enfance et prit la résolution d'être fidèle et de se comporter comme un sujet du roi des cieux. Ellen White, Éducation, pages 48 à 50. Comparer Joseph avec Daniel et Jésus. Quels sont leurs points communs? En quoi Joseph et Daniel, chacun à leur manière, révèlent-ils les aspects de Jésus et comment Jésus serait? En classe, parlez de la question posée à la fin de l'étude de jeudi. Comment apprendre à faire confiance à Dieu quand les choses ne se passent pas aussi bien pour nous qu'elles se sont passées pour Joseph, en définitive.